te bénissons, notre Dieu, pour ton ineffable bonté qui se manifeste aujourd'hui encore dans ta nature. Tu nous donnes encore l'occasion d'être en plein air, d'être vraiment chez toi et de pouvoir écouter ta voix. Nous voulons te demander que ce souvenir nous reste quand nous serons les uns et les autres pris par nos occupations diverses, que nous puissions penser à ces heures de détente où nous aimions nous pencher sur le livre qui nous révèle ta parole. Nous te supplions que nous puissions nous soumettre à cette vérité, car ta parole est la vérité dans tous les domaines. Et cette vérité, c'est la pensée du Père en toutes choses. Et cette pensée nous a été communiquée par le Fils. C'est pourquoi nous te demandons de nous faire voir le visage de ton bien-aimé, afin que, à notre tour, nous puissions le connaître comme tel et jouir de ce bonheur de Dieu, du Dieu bienheureux. Que Jésus devienne aujourd'hui un nouveau centre d'attrait pour nos cœurs et qu'ainsi, toute autre chose nous paraisse, comme le disait l'apôtre Paul, comme de la boue, comme des ordures, afin que l'excellence de la connaissance de Jésus captive nos pensées pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, en cette journée, nous allons considérer le chapitre 19 en traitant ce thème du Dieu vivant. Qu'avez-vous retenu de ce chapitre? D'abord, la question 3. En pensant à la vie que Jésus manifesta sur la terre, trouvez dans ce chapitre ce verset qui le qualifie spécialement et lui donne un nom résumant son apparence parmi les hommes. Qu'avez-vous trouvé? Un, quatre, sept, 17, 22, c'était le pauvre. Le pauvre. Est-ce que Jésus a été considéré comme le pauvre sur la terre? À sa naissance, est-ce que c'est la naissance d'un riche? Dans sa fuite en Égypte, est-ce que c'est la fuite d'un riche? Dans leur retour à Nazareth, petite bourgade, est-ce que c'est la ville d'un riche? Dans son éducation, est-ce qu'il a eu l'éducation d'un riche? Le métier qu'on lui a donné, est-ce que c'est le métier d'un riche? À moins qu'il soit entrepreneur, mais ce n'était pas le cas à Nazareth avec Joseph. Dans ses années de travail, c'est encore le travail du pauvre. Puis dans son ministère, qui est-ce qu'il assistait? Des femmes l'assistaient de leurs biens. Luc, chapitre 8. Donc c'est vraiment la vie du pauvre. Et vous avez une grande édification quand vous méditez sur la vie du pauvre. Il y a un texte dans les psaumes qui nous dit même que nous sommes des bienheureux quand nous nous intéressons aux pauvres. Verset
premier du, ou deuxième, selon second, du chapitre, du psaume 41. Bienheureux celui qui comprend le pauvre. Pas seulement qui s'intéresse aux pauvres, mais aussi qui comprend le pauvre. Comprendre le pauvre. Comprendre aussi le Seigneur. Au mauvais jour, l'Éternel le délivrera. 12. La colère du roi. Ben, du roi, c'était Salomon. Et comme le rugissement d'un lion. Alors, si vous voyez la vie de Salomon à ses débuts, il y a eu des moments de colère. Et qui est-ce qui a payé? Joab. Et puis, Adonija, son frère. Hein. Il leur a donné une possibilité, mais quand ils n'ont pas marché, ils n'ont pas tenu leur parole, il a fait tuer Adonija. C'est la colère du roi. On doit craindre la parole du roi. C'est le rugissement du lion. Mais il y a plus que la colère de Salomon. Ceux qui n'acceptent pas Jésus restent sous la colère. Et cette colère est réelle. Si j'accepte le Seigneur, la colère de Dieu s'est détournée parce que c'est Jésus qui l'a subi à la croix. Alors il est dit qu'il n'y a plus de colère pour le croyant. Et nous n'attendons pas la colère. Mais la colère, elle vient sur le monde impie, incrédule, et cette colère, elle sera terrifiante. C'est la colère du lion. Jésus est venu d'abord comme un agneau, mais il revient comme un lion. Il revient pour juger le monde. Et nous devons savoir que ce sera le grand rugissement. Mais sa faveur, et on est dans le temps de la faveur de Dieu maintenant encore. Ce n'est pas le jour de la colère. Il y a une vie dans sa faveur, mais il y a un jour dans sa colère. C'est extraordinaire ce verset. Il y a une vie dans sa faveur. Dieu est le Dieu de la grâce. Mais n'oublions pas qu'il est un Dieu saint et qu'il y a un jour dans sa colère. Quand Jésus a lu à Nazareth le chapitre 61 d'Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il a donné d'abord tout ce qui était grâce, il a souligné ces choses merveilleuses, pourquoi il était venu, pour apporter, il finit en disant, pour apporter une année de grâce, ou pour publier l'année de la faveur du Seigneur. Puis il s'est arrêté là. Hein. Mais si vous lisez ce qu'il y avait après, il est dit, et le jour de la colère, l'année de grâce. Mais entre l'année de grâce et le jour de la colère, il y a un intervalle. Mais ce qui va venir maintenant, l'année de grâce se termine, le temps de la grâce se termine pour les gens dits chrétiens, mais le jour de la colère vient pour tous ceux qui ont la forme de la piété, mais qui en ont renié, qui en fait la puissance. Sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. C'est une bénédiction. L'Évangile, partout où il a été proclamé, il a apporté la bénédiction. Et je me souviens toujours de cette personne et c'était un noir, et qui disait à quelqu'un qui critiquait les missionnaires, mais pourquoi est-ce que on a envoyé chez vous des missionnaires, vous étiez bien heureux dans votre religion. Ce noir lui a dit, vous ne connaissez pas ce que nous souffrions de tous nos sorciers, de toute cette superstition. Nous étions sous un joug terrible et nous n'avions pas besoin seulement d'être sauvés pour le ciel, nous avions besoin d'être sauvés dans le temps présent. Et l'Évangile nous a apporté la délivrance. C'est pas simplement un salut pour la mort, c'est un salut pour avoir une autre vie. La faveur du Seigneur sur ses peuples, quand on voit aussi la situation des femmes dans certains pays, là où l'Évangile avait été vraiment reçu et vécu, il y a une délivrance merveilleuse. Quelqu'un d'autre a un autre verset? Oui, Francis. Il n'y a pas dit ça. Oui. Bien sûr. Mais ici, c'est de la femme qu'il est question. Bien sûr. C'est un verset qu'on a tordu. C'est pour ça que vous ne disiez pas longtemps. On retrouvera des choses de ce genre au sujet des hommes. Mais pour l'instant, c'est d'une femme intelligente qu'il est parlé. Oui, on ne va pas détourner ça. Hein. C'est une femme intelligente. Et une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et pensez bien à cela. Et vous, les femmes intelligentes, dites-vous que vous avez une valeur, que vous êtes un don du Seigneur. Alors, vous ne voulez pas que le Seigneur donne n'importe quoi. Hein. Soyez un don précieux. Prenez conscience que vous êtes un don pour l'homme. Alors ça vous valorise. C'est un don du Seigneur. Donc, vous ne venez pas de n'importe qui. Vous êtes donné par Dieu. Alors Dieu ne donne pas n'importe quoi. Alors laissez-vous former. Laissez-vous tailler comme un diamant, comme un rubis. Laissez-vous polir, mes sœurs. Et vous serez vraiment reçus par l'homme du cœur de Dieu comme un don du Seigneur. Je vous souhaite de rencontrer, en effet, des hommes selon le cœur de Dieu qui s'éloignent du mal et en qui vous pourrez trouver un appui, un secours aussi. Un compagnon. Qui est-ce qui a un autre verset qui l'a atteint? Avez-vous expérimenté dans votre vie l'une ou l'autre de ces paroles? Est-ce qu'il y a autre chose dans vos groupes? Oui? Le verset 16. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Que veux-tu nous dire là-dessus? Oui, c'est vrai. Tout le monde a vécu un peu ce passage-là, dit notre ami José. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Et José dit que lorsqu'on ne l'a pas fait, et elle a fait cette expérience quand elle ne le faisait pas, elle descendait. Et c'est vrai pour nous tous. Celui qui ne veille pas sur sa voie, il mourra. On descend vers la fosse. Et on en fait l'expérience. Mais Dieu, dans sa grâce, nous arrête. Et voyez-vous, quelquefois, pour arrêter un croyant, qu'est-ce que Dieu permet à ce croyant qui est en train de descendre? Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter dans une descente de ski ou à ski? C'est une chute. Hein? Et encore, comment? C'est l'obstacle extérieur, ça, un arbre. Mais avant l'arbre, Dieu peut permettre la chute, parce qu'embrasser un arbre, c'est pas embrasser un moustique, hein, marangouin. Légèrement, comme nous disait notre ami. Il est question, n'est-ce pas, que quelquefois, on se demande, mais pourquoi ce chrétien a-t-il eu une chute? Mais c'est qu'il était déjà en train de descendre, on s'en apercevait pas à nous. Mais il y a longtemps qu'il ne marchait plus avec le Seigneur. Et pour moi, quand un chrétien tombe, quand c'est un authentique chrétien, mais que Dieu permet la chute, c'est encore dans son amour pour le stopper, pour l'arrêter. C'est peut-être très humiliant, tout cela va se savoir, et Dieu n'a pas empêché la chute parce qu'il voulait, n'est-ce pas, l'arrêter. Et il y a des croyants, quand ils reconnaissent ça, ils s'humilient, ils confessent. Et ensuite, ils peuvent dire, bien, Dieu a encore usé de grâce. Ça a été humiliant pour moi, mais il m'a brisé. Et voyez-vous, David, peut-être qu'il avait besoin de cette terrible leçon. Mais ça a été humiliant, mais il l'a confessé devant tous. Alors, c'est pour ça que nous, les autres chrétiens, qui voyons quelqu'un qui tombe, faisons bien attention de ne pas dire, ah, ben maintenant, alors nous voulons le punir. Et nous arrivons vers quelqu'un qui est tombé avec une pique, et nous lui donnons le dernier coup de pique. Hein? C'est vraiment ça. C'est pas cela. Il faudrait commencer d'aider et de restaurer cette personne, de l'entourer. Mais la plupart du temps, on ne dit rien à quelqu'un qu'on voit déjà descendre. On voit qu'il y a déjà des choses qui ne vont pas dans sa vie. Mais on ne lui dit rien. Hein. On n'a pas ce courage de lui dire, écoute, fais attention. Hein. Est-ce que tu n'es pas en danger de ceci et de cela? Les avertissements doivent être donnés. Exhortez-vous les uns les autres. Mais il faut le faire, non pas avec un esprit de jugement, mais dans l'amour. Mais on avertit. Alors, s'il ne veut pas écouter nos avertissements, il est probable que le Seigneur lui-même permettra la chute. Mais, à ce moment-là, c'est le Seigneur qui a frappé. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? L'achever. C'est ça le christianisme. C'est en prendre soin. C'est pas venir en disant, ah, je savais bien, hein, tu vois. Il est dit à celui qui est dans l'affliction est dû la miséricorde de la part de son ami, sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. C'est dans Job au chapitre 6 qu'il est dit ça. C'est considéré comme un dû. Et si notre frère est tombé, il nous faut aller le trouver et chercher à lui montrer que tout n'est pas perdu, que le Seigneur, dans sa grâce, l'a humilié, mais qu'il veut le restaurer. Et toujours de nouveau, vous avez quel exemple de cela? Jésus. Comment s'y est-il pris avec Pierre? Eh bien, Pierre l'avait renié avec imprécation. 3 jours après, il lui envoie un message particulier. On lit ça dans l'évangile de Marc. « Allez, dites à mes disciples et à Pierre. » Il mentionne Pierre, qui aurait pu se dire, « Moi, je suis plus un disciple, j'ai renié mon maître. » Non, il y a un message pour lui. « Allez, dites à mes disciples et à Pierre. » Et puis ensuite, quand il le retrouve au bord de la mer de Galilée, comment restaure-t-il son âme? En lui parlant avec amour. Il ne lui lave pas la tête en lui disant, ben tu sais, hein, je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu ne m'aimes pas. Le Seigneur aurait pu lui parler comme ça. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il le laisse juger. Il ne le juge pas. Il le questionne avec amour. C'est toute une autre méthode. Et l'œuvre de restauration se fait par l'amour du Seigneur, qui finit par lui poser cette question, « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» Et là, Pierre est touché au vif. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Une autre parole qui a pu vous arrêter? Le verset 4. L'Éternel a tout fait pour lui-même. Non, je m'excuse, je suis tout à fait brouillé, moi. C'est le vent qui change mes pages. Les richesses font beaucoup d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Oui. C'est l'expérience que tu as faite. Carole dit que quand elle est venue au Seigneur, elle a expérimenté ce verset 4 d'une certaine façon. Les amis qu'elle avait dans le monde l'ont considérée comme une pauvre, étant abandonnée. Il y a autre chose? Alors, nous allons à la première des questions. En faisant cette lecture, quel est le verset sur lequel vous voudriez méditer davantage? On a parlé d'un voyage à haute altitude. À quel endroit voudriez-vous vous poser davantage pour méditer? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Alors, on va maintenant simplement parcourir ces versets. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Voilà de nouveau un de ces 15 mieux vaut. Il y a 15 mieux vaut dans le livre des Proverbes. Nous les repasserons en vue quand nous les aurons tous vus. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Il n'y a pas de complication là. Est-ce que vous avez trouvé un exemple biblique qui pourrait l'illustrer? Je vous laisse encore chercher. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Est-ce que vous êtes d'accord? Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. C'est bien souvent ce qui arrive quand au lieu de mesurer sa marche, de regarder vraiment les obstacles, on se précipite, et c'est vrai littéralement, on tombe, mais c'est vrai aussi spirituellement. Il faut voir où l'on marche. Il y a des moments dans la vie où il faut avancer lentement. Et ce manque de connaissances, il n'est bon pour personne. C'est vrai. Alors, essayons de nous instruire les uns et les autres. Ça, nous sommes tous touchés par cette parole. Parce que l'ignorance, elle n'est bonne pour personne. Même l'ignorance des lois, on en a fait l'expérience. À une frontière, alors que j'allais dans un camp italien, j'avais des jeunes avec moi, mais une jeune fille avait moins de 18 ans. C'était en France, à la frontière française. J'étais parti à 5 heures du matin parce que nous devions rouler jusqu'à Florence. Le soir, je devais prêcher. Puis on voulait partir avant qu'il y ait des queues à la frontière. On arrive à la frontière, on regarde les papiers, on découvre qu'il y a une fille qui n'a pas 18 ans, même si je suis pasteur, tout ce que vous voulez, je fais peut-être la traite des blanches. On ne me laisse pas passer. Retourner à Nice, trouver ce papier ou à la mairie, etc. Alors moi, j'ignorais. J'ai essayé d'intercéder, de dire, mais vous voyez bien ce que je fais. La loi, nul n'est censé ignorer la loi. Et on applique la loi. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Ça a dû retourner pour avoir ce fameux papier. Ben, vous savez, ça vous marque, ça. Puis alors, je me suis dit, mais on va arriver vers 10 heures seulement, il y aura une queue impossible. Et c'est vrai, c'était l'été. Mais quand on est arrivé, alors la grâce. Quelqu'un de la police nous avait remarqué, savait l'histoire. Quand il m'a vu au bout de la queue, il m'a fait passer directement. Voilà la grâce. Mais on ne passait pas. La loi, tu dois la connaître. Et il avait raison. Parce que s'il me laissait passer, c'était lui qui était en tort. Et puis, il faisait une exception. C'était pas possible. Alors, l'ignorance de la loi, l'ignorance ou le manque de connaissance n'est bon pour personne. Puissions-nous nous en souvenir. Verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. C'est tellement vrai, ça. Le Seigneur nous a donné de l'intelligence, il nous a donné à tous une sagesse quand même naturelle. Mais voilà que nous avons des tendances, des passions, nous savons très bien, la nature nous enseigne qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Par exemple, quoi? Vous allez en vacances. Et, je m'excuse Suzanne si je parle des femmes de nouveau, vous voulez vous bronzer à tout prix. Vous avez peu de jours, mais vous voulez épater vos camarades quand vous rentrerez à Montréal. Alors vous en prenez une petite couche de soleil, vous êtes imprudent, vous ne suivez pas les règles que mon père nous donnait, 5 minutes sur les orteils, avec le reste couvert, ensuite on allait progressivement. C'était un peu exagéré, hein. Mais il fallait pas qu'on soit brûlé. On nous enseignait ça dans le temps. Non, on se met comme ça, et puis, on est rouge comme une écrevisse. Puis on a toutes sortes de désagréments parce qu'on a pris trop de soleil. Puis on dit, mais comment est-ce que Dieu a pu faire une chose pareille? Comment est-ce qu'il m'a laissé? Comment est-ce que j'ai pu être brûlé par son soleil? Voilà comment on s'explique ces passages. La folie de l'homme pervertit sa voix. Mais ensuite, quand on a les conséquences de notre folie, qu'est-ce qu'on accuse? Dieu. Vous voyez tout le temps ça, même les gens qui ne croient pas en Dieu, quand il arrive quelque chose, ils se réveillent, puis ils montrent le poing vers le ciel, même s'ils ont cru que le ciel était vide. C'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Seigneur, donne-moi de me souvenir de cela. Et que jamais je ne m'irrite contre toi parce que ce n'est pas toi qui me fais faire une bêtise. Tu m'avais donné assez d'intelligence, mais moi j'ai perverti cela. Parce que je voulais faire quelque chose qui me plaisait. Et maintenant c'est la même chose, on en a parlé presque chaque temps. Il y a des... Peut-être pas seulement des jeunes filles, mais c'est plutôt chez les jeunes filles de nouveau, parce qu'elles sont un exemple, exemple des exemples. Elles trouvent qu'elles sont trop basses, comme disait une bonne fissette. Je suis trop basse. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour s'élever un peu? Elle n'était pas assez grande. Hein. Elle disait qu'elle était basse. Alors, tu veux être plus grande, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des talons, hein. Et puis tu marches comme ça avec le pied, c'est comme ça que le Seigneur te l'avait fait, hein. Pour que tu marches comme ça. Ça va dans les exercices de Cathy. Pour un petit moment, hein. De marcher sur la pointe des pieds. Puis après de marcher sur les talons. Mais j'ai pas vu beaucoup de femmes marcher sur les talons comme ça. Les pieds en l'air. N'est-ce pas? Parce que, justement, quand elles marchent sur les talons, elles sont encore plus basses. Mais c'est très bon, ces exercices. Parce que, même quand on fait ces exercices, on peut penser à toutes les choses qui nous reviennent. On est enseigné, là, en faisant les exercices. Alors, on a marché comme ça, on a les talons à aiguille, et puis, tout à coup, on a des douleurs, je ne sais trop où. On doit aller chez le médecin. Puis on dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas préservé de ça? Mais tu avais l'intelligence. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des lois naturelles. Et les païens même les suivent. c'est vrai. Mais si tu transgresses les lois naturelles, tu ne dois pas te plaindre des effets secondaires. Voilà les proverbes. Alors, ne nous irritons jamais contre le Seigneur. Parce que vous voyez, vous pouvez prendre des versets dans Jacques et dans d'autres portions qui vous montrent que c'est toujours Dieu qui est mis en cause. Nous sommes injustes. Verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. C'est vrai, hein? Tous sont amis de l'homme qui donne, si le riche donne. Mais le pauvre est séparé de son ami. C'est vrai aussi. On en a fait l'expérience. Là aussi, je pourrais vous raconter bien des choses personnelles, mais je me tais. Le faux témoin ne restera pas impuni. Alors là, vous devriez lire le Deutéronome au sujet du faux témoin. C'est quelque chose de terrible. Les faux témoignages. Les faux témoins, chapitre 19 du Deutéronome. Verset 15. Et vous voyez la sagesse de Dieu au sujet des faux témoins. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, à leurs en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Vous voyez que tous nos codes civils, au fond, l'origine de tous vos codes civils dans le monde, c'est là que ça se trouve. La loi de Moïse est à la base de la plupart, pour ne pas dire de tous les codes civils du monde. Le témoin, est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère, qu'est-ce qui va arriver? La mort. Qui ôtera ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront. Et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voilà pourquoi il y a cette condamnation. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Et c'est là le fameux, la loi du taillon, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alors évidemment, chez les musulmans, on a pris cela littéralement, et c'est pourquoi, quand on va en Orient, vous rencontrez des gens qui n'ont qu'une main. Pour quelle raison? Ils ont été voleurs. Et on leur a coupé la main. Et maintenant, on sait que l'homme qui n'a qu'une main, ce n'est pas un accident qu'il a eu. À la justice, à son jugement, il avait volé, on lui a coupé la main. C'est comme ça. Alors, c'est sévère. Le faux témoin et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Aujourd'hui, on croit toujours qu'on peut échapper par quoi? Par des mensonges. Eh bien, pour nous déraciner du mensonge, pour enlever cette racine du mensonge, bien, lisons cela et apprenons-le par cœur. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Tu ne t'en tires jamais par un mensonge. Au contraire. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, Pour quelle raison? Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Mais quelle sorte d'amitié? C'est pas pur, hein? Voyez-vous, nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne un vrai amour les uns pour les autres, mais un amour désintéressé. Que nous puissions aimer, mais parce que nous trouvons en nous-mêmes, dans notre propre cœur, le motif d'aimer. C'est pas parce que nous allons flatter, nous allons trouver quelque chose, ces amis, ces personnes, alors nous leur faisons des présents. Non. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Qu'est-ce que vous voyez là? Nous essayons toujours de discerner qui, dans les proverbes? Jésus. Alors, tous les frères du pauvre, qui est le pauvre? Jésus. Et ses frères, chapitre 7 de l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'on a lu un matin? Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les frères du pauvre le haïssaient. Ils n'étaient pas aimés de ceux qui sont appelés ses frères, qu'ils soient réellement frères ou cousins, peu importe pour nous. C'était la parenté. C'était sa parenté. Alors, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Qui étaient ses amis? Ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Chapitre 15 de Jean. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Si les frères du pauvre le haïssaient, ses amis, quand il y a eu le drame de Gethsémané et de Golgotha, ils se sont éloignés. Donc vous voyez qu'on peut trouver Jésus dans les proverbes. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Qu'est-ce que ça vous fait revivre, ça? Gethsémané. Vous voyez qu'on est en plein dans l'évangile. Ça nous fait revivre Gethsémané. Il leur adresse des paroles suppliantes. Quelles sont ces paroles suppliantes? Mon âme est saisie de détresse jusqu'à la mort. Priez, hein, puis s'éloigne. Puis qu'est-ce qu'il les trouve après? Dormant. Dormant. Ils disparaissent. Puis après, tous se sont sauvés comme des lapins. Verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Oui, vous faites du bien à votre âme quand vous réfléchissez, quand vous retrouvez le bon sens. Ma femme est très catégorique sur ce point d'avoir du bon sens. Ayez du bon sens. Et il y a bien des choses que vous éviterez simplement avec un peu de bon sens. Dieu vous a donné du bon sens. Et il nous enseigne par la nature. Même les animaux nous enseignent. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est s'éloigner du mal. Mais quand vous vous éloignez du mal, vous trouvez le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, donc on revient sur le faux témoin, on en a vu quelque chose dans le Deutéronome. Et celui qui dit des mensonges périra. Vous voyez que c'est important, puisque c'est redit une seconde fois. Le clou n'était pas enfoncé assez, alors encore un coup de marteau pour river le clou. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délits. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Et c'est vrai, on sent bien que ça ne convient pas qu'un insensé vive dans les délits. C'est passager. Combien moins à un esclave de dominer sur les princes. Alors là, vous avez toute l'histoire du monde aussi, comme aussi on a des exemples dans l'Écriture. Quand un esclave qui n'était pas formé, qui n'était pas préparé à dominer, ça a été la cruauté. Il ne convient pas qu'un esclave domine
sur des princes.
Verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. On le comprend, il maîtrise sa colère. Parce que l'homme qui a de la sagesse, il a le caractère de Dieu. Est-ce que Dieu est lent à la colère? Qui est-ce qui est lent à la colère par excellence? Dieu, quand il apparaît à Moïse, il dit qu'il est lent à la colère. De sorte que quand vous êtes lent à la colère, vous avez un caractère de Dieu, un caractère de votre Père. Mon Père est lent à la colère. Si je suis son fils, je dois être lent à la colère. Alors, l'homme qui a de la sagesse, c'est l'homme qui a la présence de Dieu en lui. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Qui est-ce qui oublie nos offenses? C'est Dieu. Alors, vous voyez comme ça nous parle, on est en plein évangile. Il nous pardonne nos offenses. Que d'offenses! Ne nous a-t-il pas pardonné? Alors, mais est-ce que nous aussi, nous mettons notre gloire à oublier les offenses? Il y a des hommes qui nous ont offensés, c'est vrai. Mais notre gloire, est-ce que c'est de répéter les offenses qu'ils nous ont faites? Non, c'est d'oublier les offenses. Je me souviens toujours, j'allais dans l'Abitibi en avion, et j'ai eu cette parole. Je passais par un moment difficile, justement au sujet des offenses. Et le Seigneur, dans l'avion, avant que j'atterrisse à Rouen, m'a donné cette parole. Mets ta gloire à oublier les offenses. Ça vous parle. Et j'avais pensé écrire pour remettre les choses au point. Puis le Seigneur dit, non, perds pas ton temps. Mets ta gloire à oublier ça. Moi, je me charge de tes ennemis. N'est-ce pas? Vous voyez, la parole a un effet sur nous. Et il peut nous la rappeler dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les mines ou sur les eaux. Il parle partout. La colère d'un roi est comme le rugissement d'un lion, on en a parlé. Et sa faveur comme la rosée sur l'herbe. Nous passons. Un fils insensé est une calamité pour son père. C'est vrai. Et alors les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Vous connaissez les gouttières? Même quand c'est le robinet qui coule tout le temps, ça tanne les nerfs. Alors, mes amis, toute querelle, reste querelle, ça vient de la chair. Alors, nous demandons au Seigneur que notre chair réellement soit crucifiée. Parce que ce soit les querelles d'une femme ou les querelles d'un homme, si les querelles d'une femme sont une gouttière, les querelles d'un homme, c'est un torrent. Qui emporte tout. Alors nous ne voulons pas abaisser la femme. Verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est vrai dans quel sens ça aussi? Seulement matériellement? C'est vrai aussi spirituellement. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Spirituellement, c'est vrai aussi. Si je m'abandonne, si je me laisse aller à l'assoupissement, je ne trouve plus non plus cette nourriture. Il me faut le réveil, un renouveau, pour que mon âme n'éprouve pas la faim. Vous voyez, on peut faire du bien à son âme, puis on peut lui faire du mal. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra, nous en avons eu l'explication. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui a fait aussi le pauvre. Alors, ce que vous donnez, quand vous donnez un verre d'eau froide à quelqu'un qui a soif, vous le donnez à qui? Au Seigneur. et le Seigneur se souviendra de ce geste que vous avez eu pour une âme. C'est lui qui rendra selon son œuvre. Maintenant, il y a un point sur la correction. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir, nous avons vu cela. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, c'est vrai encore. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Bien souvent, on essaye d'aider quelqu'un qui se met en colère. Mais il doit bien savoir qu'il va subir la peine de cette colère. Puis quand on a voulu l'aider, si on ne demande pas au Seigneur vraiment cette délivrance, on devra recommencer. Tu devras y revenir, tu devras redire la même chose. On avertit qu'il ne faut pas se mettre en colère, puis on a été averti, on se met quand même en colère, alors il faudra revenir sur cette chose-là. Donc il faut en finir. Verset 20, écoute les conseils et reçois l'instruction. Vous voyez que ça se lit quand même ces versets. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Vous avez encore le privilège d'avoir une suite dans votre vie. Bien, la suite de votre vie ne doit pas être comme son commencement. C'est ce qu'il est dit dans l'Ecclésiaste. La fin d'une chose est meilleure que son commencement. Vous avez les souvenirs de ce qu'a été votre vie avant, hein? Mais la suite ne doit pas être comme le passé. Or, bien souvent, vous vous dites, oh, j'ai fait des expériences, puis je sais très bien que je recommencerai. C'est pas vrai. La suite de votre vie doit être différente. Je trouve qu'il y a beaucoup de force dans cette parole. Être sage dans la suite de ta vie, c'est une possibilité. Ce n'est pas nécessaire que ma vie future se déroule comme celle que j'ai connue dans le passé. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, vous le savez, ou beaucoup de pensées, mais qu'est-ce qui s'accomplit? C'est le dessein de l'Éternel. Vous savez, ça nous aide. On a un tas de pensées, il est dit dans le psaume 94, dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. Et une de ces consolations, c'est de savoir que, envers et malgré toutes ces pensées qui nous agitent, ou tous ces projets que nous avons, c'est ce que l'Éternel a décidé qui s'accomplira. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa beauté. Non. C'est sa beauté. Croyons-le. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Choisissez. Voilà un mieux vaut. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Ça aussi, littéralement, on peut connaître ça. Si vous craignez le Seigneur, si vous le faites entrer dans toutes vos voies, vous connaîtrez aussi cette nuit de rassasiement qui n'est pas visitée par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, tout en apportant ce que j'ai pris dans ma main. C'est les petits-enfants qui font ça. Les petits-enfants, ils mettent leur main dans le plat. Pour finir, quand même, c'est la maman qui doit mettre la nourriture dans la bouche. Mais ça, on comprend d'un enfant. Mais nous, ne nous conduisons pas comme des enfants. Ne soyons donc pas paresseux. Quand nous avons commencé quelque chose, allons jusqu'au bout. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Ça rentre dans la correction. Celui qui ruine son père
et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Vous pourriez-vous prendre aussi maintenant un crayon puis noter ces expressions, le fils qui fait honte. Qui sont les fils qui font honte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire honte? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas mettre en fuite notre mère? Un fils qui fait honte, un fils qui fait rougir. Il y a une promesse que j'aime beaucoup aussi dans Ésaïe, au sujet des enfants qui nous font honte peut-être aujourd'hui, ou qui nous font rougir. Il y a une promesse dont nos cœurs de parents doivent s'emparer au chapitre 29 d'Ésaïe, verset 23 au verset 22. Ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus, car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint Jacob. Ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction. Il y a encore un espoir pour que même nos enfants qui nous font rougir, eh bien, reçoivent instruction. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. C'est encore un... Oui, c'est le verset que tu as cité, Johanna, je crois. J'ai connu, ou comme père, j'avais une fille qui était brillante dans ses études, mais un jour je me suis aperçu que l'instruction qu'elle recevait l'éloignait de Dieu et risquait vraiment de la perdre. J'ai prié dans mon cabinet, dans ma chambre, en fermant la porte sur moi, et le Seigneur m'a dit de l'enlever, de lui faire interrompre ses études, de l'enlever de cette école. Quand j'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit que j'étais insensé, que j'étais fou, que je brisais sa carrière. Mais j'aimais assez ma fille pour prévoir ce qui lui arriverait. J'ai été trouver son directeur, qui m'a dit que j'étais insensé, qu'elle était brillante et tout ce que vous voulez. Je lui ai dit mes raisons, pourquoi? Parce qu'il y avait deux professeurs qui enseignaient des choses perverses. Et j'ai enlevé. Je n'ai pas eu l'approbation des frères chrétiens qui trouvaient que j'étais trop dur. Mais si je l'enlevais de cette école, c'était pas pour l'empêcher de faire des études, mais j'avais compris que je devais la mettre dans une école où elle serait, au contraire, mieux enseignée, et ça me coûterait quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas facile. 3 jours après, j'ai reçu un téléphone que ma fille avait disparu. C'est pas drôle. Alors, je me sens doublement responsable. Alors, est-ce qu'il faut avertir la police? Pour finir, dans la prière, vers le soir, j'ai reçu un téléphone où on me disait où se trouvait ma fille. Alors, elle est revenue. Mais elle avait pensé qu'elle m'aurait par cela, que je la remettrais à l'école que j'avais fait quitter. Elle voulait me forcer. Alors j'ai dit, je t'avais donné la possibilité, alors que ça coûtait cher, que ça m'amenait à d'autres sacrifices, tu n'as pas voulu, eh bien, tu iras faire le ménage d'une pauvre femme, estropiée, handicapée, qui n'avait qu'une jambe de bois. C'était dur,
Vous croyez que ça me plaisait de faire ça? Et j'ai conduit en Suisse allemande vers cette pauvre femme pour qu'elle lui fasse le ménage. Et c'était pas drôle. C'était une petite ville où encore en Suisse, chaque samedi, chacun balaye devant sa maison. Elle devait balayer la rue. C'était encore un petit pays où l'on pense que les choux-fleurs poussent beaucoup mieux quand on les asperge du purin qu'on prend dans les toilettes, là, enfin, dans la fosse septique. Elle devait aller avec un arrosoir chercher ça, puis arroser les choux-fleurs. Au lieu de faire ses études, c'est pas drôle. Faire la cuisine aussi pour cette pauvre femme. Eh bien, en 2 mois, elle était complètement désintoxiquée. Et un jour, cette fille bien-aimée m'a dit, « Papa, merci. Tu m'as sauvée. J'étais perdue si tu n'étais pas intervenue. » C'est pas facile d'élever des enfants. Vous devez prendre des décisions. Je me vois encore très bien. J'étais dans ma chambre, puis je priais. Et j'ai eu une vision, là, intérieure. Un de mes enfants plus petits, disons, était à la cuisine, et puis la cuisinière était allumée, c'était une cuisinière électrique, et je voyais cet enfant qui allait mettre sa main sur la plaque. Hein. Puis moi, je priais, « Seigneur, permets qu'il ne mette pas sa main sur la plaque. » Seigneur, permets qu'il ne se brûle pas. Le Seigneur me dit, stupide, qu'est-ce que tu dois faire? Sortir de ta chambre, finis ta prière. Dieu dit, pourquoi est-ce que tu restes couché par terre? Il nous reprend. Hein? Pourquoi est-ce que tu te lamentes? Cesse de crier vers moi. Il a dit ça à Josué. Va. Hein? Alors je vais à la cuisine, puis j'enlève mon enfant. Qui a un peu de bon sens. C'est pas être toi le ciel t'aidera, mais c'est agir selon ce que je te montre. Et le Seigneur, par sa grâce, a opéré. Et j'ai ce bonheur d'avoir 3 filles qui sont au Seigneur et qui le servent. Mais ça n'a pas été facile. Il a fallu s'opposer. Et pour mes filles, ça a été la même chose. Il y a des moments difficiles où il faut intervenir. Et il ne faut pas surtout prendre des conseils chez Pierre, Jacques et Jean, parce que eux, ils vous disent tout le contraire. Mais si, parce que vous avez la parole dans votre cœur, vous allez suivre la parole, vous serez peut-être tout seul, mais le Seigneur bénira. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. C'est leur nourriture. Le péché, c'est l'iniquité. On peut se moquer de la justice et ça ne sera pas toujours. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. On n'évitera pas le châtiment. Ils sont prêts pour les moqueurs. Ils sont prêts. Le jugement est prêt. Et vous savez, pour ce monde entier, le jugement est prêt. Vous en soyez convaincus. Chapitre 9 de l'Apocalypse, verset 14. Un ange sixième qui a sonné la trompette, et Jean entend une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et qui disait au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate et les quatre anges qui étaient prêts. Les jugements sont prêts. Hein. Ils étaient prêts pour... Pourquoi ? Pour l'heure. Pour le jour. Pour le mois. Pour l'année. Les jugements sont prêts. Et ils furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Les jugements sont prêts. On ne se moque pas de Dieu. Et si vous me dites simplement, mais enfin, il n'est rien arrivé. Attendez. Vous avez une question ? Alors ce soir, et ce serait peut-être bien que vous ayez déjà l'occasion, on a deux chapitres encore à faire ce soir. Ce serait peut-être bien que vous puissiez déjà un peu en prendre connaissance, parce que ça aidera. Et demander aussi à Dieu qui me donne sa force et sa capacité, parce que je n'en ai pas moi-même. Mais il est dit, notre capacité vient de Dieu, c'est ce que disait l'apôtre Paul. Ce soir, nous aurons le chapitre 20 et le chapitre 21. Est-ce que je les ai mis pour le soir, c'est plus long, parce que maintenant, je voudrais que vous ayez la liberté d'aller au lac. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir de nous avoir donné encore ce moment, et nous te prions de nous rappeler par ton esprit ces vérités, qu'elles s'incrustent en nous, et que nous puissions bénéficier de tout ce que ta parole nous a enseigné dans les jours qui viendront, quand nous serons pris dans nos occupations les plus diverses, qu'il nous reste quelque chose de ce camp Mahanaïm 1985. Nous ne savons quelle est ta volonté, mais nous savons que c'est toujours notre dernier camp, et c'est pourquoi nous te demandons que tu nous donnes d'en profiter au maximum, puisque c'est le temps de ta grâce et de ta faveur. En Jésus. Amen.